Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, une loi spéciale pour arrêter le massacre des poulets. Pascal Bérubé, chef parlementaire du Parti québécois, se dit prêt à venir siéger cet été si jamais il fallait légiférer d'urgence dans le conflit Exceldor. M. Bérubé réagit aussi à Grégory Kelly, ce député libéral, qui l'a intimé sur Twitter d'arrêter de, et j'ouvre les guillemets, s'en prendre à la communauté anglophone. Enfin, si Claire Samson passait au Parti conservateur, le chef du M pourrait-il venir faire ses conférences de presse dans le hall avec elle, un peu comme le fait Paul Saint-Pierre Plamondon avec Pascal Bérubé. Mais d'abord, on revient sur un sujet auquel on s'intéresse depuis longtemps. L'avenir de l'Occident au Cégep.
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
Éliminer les contenus liés à l'Antiquité et au Moyen-Âge dans le cours d'histoire obligatoire en sciences humaines au Cégep aurait évidemment été une grande perte. Et mon prochain invité avait sonné l'alarme dans Le Devoir et ici, à ce micro, à Là-haut sur la colline, en septembre 2020. Bonjour Nathan Murray.
Bonjour Antoine. Merci beaucoup de l'invitation.
Ça fait plaisir. Vous êtes doctorant en quatrième année en histoire romaine, enseignant aussi à l'Université Laval et au Cégep Garneau. Je me demandais, là, la ministre a fait des annonces dans les derniers jours. Est-ce que vous considérez qu'elle a sauvé la civilisation occidentale au Cégep?
Je dirais que c'est un peu pompeux de le dire, mais assurément, elle a pris une décision qui est au-delà des attentes de la plupart des enseignants d'histoire, notamment en ajoutant un élément de compétence qui reconnaît explicitement que le cours doit aborder les héritages historiques antérieurs au 15e siècle dans la formation de l'Occident.
Donc, c'est ça, effectivement, oui. C'est ça qu'on voulait faire, là, une espèce de grand cours qui, maintenant, n'était plus centré sur l'Occident, l'histoire de l'Occident, puis on partait du 15e siècle. On mettait aux poubelles dans le cours obligatoire en sciences humaines, donc cours obligatoire d'histoire, le Moyen-Âge et surtout l'Antiquité. C'était terrible.
Oui, c'est ce qui me semblait, à moi et à plusieurs collègues, absolument indéfendable de se restreindre ainsi aux époques présentes en se coupant de toute une partie de notre héritage, d'une partie de la culture générale aussi qui était transmise par ce cours, parce que ne serait-ce que pour lire des articles de journaux ou certaines analyses parfois un peu plus pointues, les références à l'Antiquité abondent, au Moyen-Âge aussi, parfois plus qu'on pense, l'histoire architecturale aussi, l'histoire du christianisme qui est beaucoup liée donc à la fin de l'Antiquité et à la période médiévale, et bien tous ces éléments-là ont été évacués du seul cours obligatoire des étudiants en sciences humaines en histoire.
D'ailleurs, pour parler de la décision de la ministre, on avait beaucoup, c'est-à-dire on a à notre disposition plusieurs images qui datent de ces époques. Une décision à la Salomon, hein?
Oui, c'est ça. Donc, on ménage la chèvre et le chou un peu dans cette décision-là, parce que la compétence reste effectivement la même que celle qui avait été suggérée dans la première mouture de la réforme, donc expliquer les fondements de l'histoire du monde du 15e siècle à nos jours. Donc ça change pas. C'est donc une précision dans le descriptif qui vient en quelque sorte permettre ou insister sur l'histoire de l'Occident. La manière dont ça se voit n'est pas claire encore.
Non.
Ça permet de façon certaine de refaire une sorte d'histoire chronologique, mais ça permet aussi, selon l'appréciation du professeur ou ou du collège, de fonctionner par retour en arrière, donc commencer chronologiquement au 15e siècle, mais revenir de manière régulière sur certains points thématiques sur l'histoire ancienne. Donc, c'est pas un retour à l'ancien énoncé, c'est davantage un compromis, mais un compromis qui vient avec un élément d'une importance capitale qui est l'ajout d'une quinzaine d'heures au cours obligatoire. Donc, on passe de 45 à 60 heures. Mm-hmm. Ça, très sincèrement, c'est vraiment ce qui fait toute la différence et un peu ce qui fait en sorte que tous les enseignants en histoire, peu importe le thème de cours qu'ils soutenaient, sont ravis parce que ça fait donc des années qu'on le demande et que mes collègues le demandaient.
Est-ce qu'on peut utiliser une autre métaphore de l'Antiquité qu'elle a tranché le nœud gordien?
Ben elle le transmet fort habilement, en effet, donc de mouvement très très rapide de son glaive, mais c'est effectivement avec moins d'effectivité peut-être qu'Alexandre le Grand,
oui.
Mais on reste donc il y a eu une belle écoute de la part de la ministre. Qui a notamment rencontré les partisans ou plutôt les défenseurs des deux camps un peu plus tôt cet hiver, qui a pris le temps de mûrir sa réflexion et qui finalement a pris en compte un peu les opinions de tous. Donc ça reste un cours d'histoire du monde, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose en soi, mais on rajoute dans l'énoncé l'Occident et surtout donc ces périodes anciennes du reste qui n'ont sens que dans une histoire de l'Occident, parce que le Moyen Âge, autre part que dans l'Europe occidentale, ça ne fait pas grand sens.
Est-ce que tout ce débat nous fait pas comprendre que de plus en plus, avec de nouvelles analyses, on a du mal à se voir comme occidental et à se perpétuer comme occidentaux. Est-ce que ça montre pas ça que les gens qui veulent étudier l'Occident sont de plus en plus considérés comme des gens un peu fermés sur une civilisation dominatrice qui s'est adonnée à l'horreur du colonialisme, ce qui est, selon moi, simpliste, mais est-ce que ça ne devient pas majoritaire en sciences humaines?
Je dirais pas que c'est majoritaire. Au début, je refusais un peu de croire que c'était l'une des raisons qui faisait en sorte qu'on proposait ce cours-là. Mais effectivement, après les discussions avec des collègues, après la déclaration de la présidente de la PHQ, donc l'Association des professeurs d'histoire du collégial hier aussi, je dois avouer que ça penchait dans la balance et qu'effectivement, ce sont des voix qu'on entend. Et ça me semble dommage. Donc, sans vouloir faire de l'histoire de l'Occident ce qu'on appelle un roman national, ou sans vouloir
oui, il y a comme une possibilité d'une espèce de nationalisme civilisationnel ici.
Oui, c'est ça. Alors que l'histoire peut être extrêmement critique et que quand j'enseigne la Rome antique, je ne fais pas loin de là une apologie des Romains, pas plus que je les défends, je les étudie tout simplement, je les analyse et à bien des égards, le regard porté sur ces époques anciennes-là est très très révélateur. Et oui. Aussi, souvent, la distance du temps nous permet d'être des enjeux qui seraient peut-être plus sensibles aujourd'hui, des questions historiques plus prégnantes. Souvent, on en trouve une sorte d'écho dans les époques anciennes qui nous permet une étude un peu moins passionnelle, un peu plus posée de l'impérialisme romain, par exemple, au lieu d'étudier cet impérialisme américain. La question de l'esclavage antique aussi peut servir d'une sorte de mise en contexte fort pertinente.
Vous travaillez sur la fin de la République au doctorat mm-hmm. à Rome. Et comment la fin de la République peut nous... quel type de parallèle on peut faire avec les démocraties qu'on peut qualifier en crise, qu'on peut dire en crise aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des parallèles qu'on peut faire entre les deux époques?
Si on se rappelle que la République romaine n'a jamais été, contrairement à nos régimes, une démocratie, c'est davantage une oligarchie, mais effectivement, il y a des parallèles qu'on peut faire, notamment dans l'effritement, d'un certain consensus autour d'institutions communes, de valeurs communes, une sorte aussi de dégénérescence du langage, un recours à un langage très, très tranché, le retour du grand discours sur l'ennemi public qui a été manié très, très bien par Trump, qui peut l'être aussi dans d'autres franges à gauche comme à droite de la société. Donc, cette mise au banc, l'opposant politique ou l'adversaire devient un ennemi à abattre. Et ce recours aussi au peuple comme une sorte d'entité théorique qu'on ne sait trop ce qui est défini par cette entité-là, mais on s'en réclame de manière toujours plus urgente, toujours plus certaine. C'est un danger qu'il y avait à la fin de la République. Et il faut jamais oublier que ce peuple dont on se réclame souvent, c'est un peuple qui n'a aucune réalité, qui gomme les différences et qui finalement, habituellement, sert à introduire un pouvoir plus concentré, moins consensuel, moins démocratique.
Dans la Rome républicaine, les patriciens votaient seulement. Voilà, c'est ça.
Les riches plébéiens et les patriciens, donc c'était essentiellement les familles, ce qu'on appelle la nobilitas, c'est une sorte d'aristocratie composée, mais effectivement, souvent, c'est un vote transitaire par catégorie de richesse et on atteignait la majorité sans avoir recours généralement aux classes les plus pauvres. Donc, ce qui veut dire que les classes les moins importantes votaient rarement. C'était ce qu'on appelait le principe de l'égalité géométrique. Plus on fait pour la cité, plus on participe, notamment sur le champ de bataille, plus on participe par sa fortune, eh bien, plus on a de pouvoir politique. On n'est pas loin, ceci dit, de l'idée de M. Duhem, qui voulait que, donc, plus on paie cher d'impôts, ait de droits de vote.
Ah oui, mais aux États-Unis aussi, il y a des tentatives de restreindre le droit de vote. Et c'est bon, peut-être qu'il y a certains parallèles qu'on peut faire, non?
Effectivement, ces essais de repousser hors du corps citoyen des gens qui juridiquement en font partie, ça rappelle plusieurs choses. L'Italie, les Romains ont été déchirés au début du 1er siècle avant Jésus-Christ par ce qu'on appelait la guerre sociale, donc le refus notamment d'intégrer les autres Italiens à leur corps citoyen, de leur donner leurs droits politiques. Donc, on faisait tout pour les écarter. Des lois ont été passées, d'ailleurs, pour les chasser de la cité, par exemple. Et ça rappelle, à certains égards, le traitement réservé aux migrants ou à certaines communautés afro-américaines aux États-Unis. Donc, cette tentation de resserrer le vote sur une communauté nationale en ce qui a trait à Rome, mais disons une communauté citoyenne. Mm-hmm. Et la grande leçon, c'est qu'au terme de la guerre, même si les Romains l'ont remporté, ils ont concédé la citoyenneté à tous les habitants de l'Italie, donc tous ceux qu'ils appelaient leurs alliés pour faire fonctionner cette cité-là, parce que sur un grand espace, ne peut pas ou peut difficilement se gouverner par un principe d'exclusion, par exemple.
Très bien, mais merci beaucoup, Nathan Murray, d'avoir témoigné de votre satisfaction de la décision ministérielle.
Oui,
et d'avoir avec... je vous remercie aussi d'avoir avec moi démontré un peu de le grand intérêt de se replonger un peu, là, on ne l'a pas fait très longtemps, mais chez les anciens, pour mieux se comprendre, qui c'est un peu la source de la Renaissance, hein?
Oui, c'est effectivement, je ne voyais pas du tout comment enseigner la Renaissance sans recourir à ces exemples romains, enseigner la Révolution américaine, enseigner la Révolution française, initier au patrimoine artistique, au patrimoine intellectuel. Tout ça maintenant, espérons-le, va toujours pouvoir s'enseigner, se transmettre. S'analyser aussi et véritablement ce 15 heures de pluie aussi, je pense que on est plusieurs à s'en réjouir et je suis certain que les élèves vont d'abord et avant tout en bénéficier.
Merci infiniment.
Un grand plaisir, merci.
On parlait donc à Nathan Murray, doctorant en quatrième année et enseignant à l'Université à Laval et au Cégep Garneau.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
Plus d'un million de poulets ont été euthanasiés récemment au Québec. Tout le monde est horrifié par cette situation de gaspillage, une situation honteuse, causée par un conflit de travail. Et pour en discuter, on rejoint le nouveau critique en matière d'agriculture du Parti québécois, Pascal Bérubé. Bonjour.
Bonjour, Antoine.
Aussi chef parlementaire du Parti québécois. Dites-moi, Monsieur Bérubé, est-ce que la loi spéciale est une option? Ici, dans ce cas-ci, moi, le ministre de l'Agriculture semblait en douter, là, il y a 10 jours, quand je lui ai parlé, il y a moins de 10 jours, 10 mai. Vous, qu'en pensez-vous?
C'est certainement pas le premier choix. Le premier choix devrait être une entente entre les deux parties. C'est un projet, en fait, c'est pas un projet, mais c'est un conflit privé.
Ouais.
Comme il est arrivé dans d'autres domaines, où d'ailleurs, je me souviens que le premier ministre avait pris... position dans le dossier ABI en Mauricie. On n'avait pas vu ça, un premier ministre qui prenait position dans un conflit privé depuis Maurice Duplessis.
Ah oui, bon.
Oui, donc dans un cas c'est privé. Alors là, dans le cas d'Excel d'Or, j'ai vu sa déclaration. On la partage. Le 13% de la production de poulet au Québec qu'on jette, le gaspillage alimentaire, le côté odieux de l'affaire, on le partage.
Mm-hmm.
Là, la partie patronale est en faveur de la médiation. La partie syndicale n'a pas encore répondu. Ça serait une bonne idée d'avoir un arbitre et puis de trancher. Mais il se peut que le syndicat ne le souhaite pas.
Et non, il refuse. C'est officiel, là, déjà.
Il refuse. Ouais. Alors, s'il faut une loi spéciale et c'est faisable dans un conflit comme celui-là, ben on se rendra disponible.
Ah oui, hein? Donc, je me souviens qu'il y avait aussi une loi spéciale, parce qu'on dit souvent pour des conflits privés, il n'y a pas de loi spéciale, mais c'est pas vrai. Un concessionnaire automobile au Saguenay en 2015, là, et il y avait un lock-out depuis quoi? 2 ans. Puis, finalement, le gouvernement avait déposé une loi spéciale. Ça m'amade à l'époque.
Donc, ce n'est pas souhaitable d'intervenir dans un conflit privé, mais ce n'est pas souhaitable non plus que des millions de poulets soient tués sans être consommés. Et il y a tout l'impact sur la chaîne alimentaire, la chaîne agricole. Donc, ce n'est pas souhaitable, mais s'il le faut, on est des parlementaires responsables, on ira siéger.
En plein été. OK. C'est déjà arrivé, hein?
J'en ai pas parlé à mon leader parlementaire, mais je veux dire, c'est l'ultime décision du gouvernement. Ça ne sera pas notre choix, mais si on est... on est sollicité, on participera. Mais c'est pas le choix qui est le choix qui est judicieux. Le meilleur, ça serait que ça cesse au cours des prochaines heures. C'est ce que je souhaite.
Autre sujet maintenant, votre collègue Grégory Kelly, sur Twitter, le 11 juin, était très fâché contre vous et votre chef, Paul Saint-Pierre Plamondon. Il disait, l'accusé... Et je tiens à le dire, on l'a invité à l'émission, là. 5-6 fois pour qu'il s'explique sur la déclaration que je vais lire. Il refuse. Il refuse de venir à l'émission. Mais c'est à vous qu'il s'attaquait, donc je veux vous entendre réagir. Il disait, oui, le CUSUM, on parle évidemment de l'hôpital anglophone de Montréal, est une institution anglophone, mais elle dessert tous les Québécois. Paul Saint-Pierre Plamondon, arrêtez vos attaques contre notre alma mater et la communauté anglophone. Ça suffit. Est-ce que vous considérez que vous avez attaqué la communauté anglophone en faisant votre critique là, du don du Royal Vic, de ce vieil hôpital à McGill?
Bien sûr que non. Je regrette qu'il ait refusé d'expliquer sa position, comme je regrette qu'il ne m'ait pas identifié dans cette vidéo. Je pense que l'objectif, c'était de faire des clics auprès de ses concitoyens. Ceci étant dit, quiconque a suivi cet enjeu sait très bien que c'est un enjeu d'équité. Et pourquoi on accorderait à McGill un cadeau de près d'un milliard de dollars, une université qui est très riche? Pourquoi on n'a pas la même chose à l'Université du Québec à Montréal, à l'Université de Montréal, à la rigueur à Concordia? Donc, ça semble être une intention dirigée et j'apprends aujourd'hui plusieurs éléments. On me dit, ben là, l'UQAM, par exemple, s'est pas manifesté. Très bien, donnons-nous le temps qu'il faut. Le projet de loi n'a pas été adopté, notamment parce qu'on est intervenu à plusieurs reprises.
Oui.
Et le gouvernement va quand même de l'avant.
Oui, c'est ça que j'ai lu moi aussi ce matin.
Alors, oui. Ils veulent être sûrs que ça se fasse. Je veux rappeler à vos auditeurs que c'est un projet qui émane du Parti libéral à la fin du mandat de M. Couillard et que là, ça pressait. Et non seulement la CAQ a décidé de poursuivre l'œuvre du Parti libéral en cette matière, mais plus que ça, en accélérer avec le projet de loi 66. Donc, c'est une transaction qui vise à donner un avantage considérable à l'Université McGill, sans débat approprié. Et il y a pourtant toutes sortes d'usages qui peuvent être faits. On a eu des témoignages d'une coalition de 50 organismes dans le territoire autour là, du site du Royal Vic. Il m'apparaît qu'on ne peut pas faire l'économie d'un tel débat. Et l'empressement du gouvernement à aller de l'avant m'apparaît suspect.
Mm-hmm. Donc, il n'y a pas d'autres projets, par contre, proposés. Là.
Il semblerait que seulement McGill qui a été sollicité. Quand le gouvernement a réalisé que c'était excédentaire, ils ont dit à McGill, vous êtes à côté, ça vous intéresse? Oui. Mm-hmm. Mais est-ce qu'on aurait pu l'offrir à d'autres? Je pense que oui. C'est un patrimoine qui est important, qui a une grande valeur. Il y a de la spéculation possible sur ces terrains.
Mais moi, je pense...
Ouais. Je proposerais à l'UQAM.
J'y pense, Pascal Bérubé, pourquoi ne pas en faire un espace bleu? Ces musées régionaux là, qui ont été annoncés par le gouvernement cette semaine, là, une espèce de réseau de musées régionaux, on en profite pour finalement, justement, retaper un édifice qui a une valeur patrimoniale. C'est le cas?
Bien, j'y ai pensé, évidemment, que ça pourrait être un espace bleu à Montréal. D'ailleurs, j'ai toute une réflexion sur les espaces bleus parce que il y en aura un par région, mais comment on va trancher les sites? Et moi, j'ai l'impression qu'on a demandé aux députés de la CAQ en caucus de se préparer à proposer des sites, mais je vous confirme que on n'a pas proposé la même chose aux députés de l'opposition. Ah. Donc, je crains qu'ils aient une longueur d'avance, les députés de la CAQ. Ils aient eu des informations qu'on n'a pas. Et on le verra, l'implantation. Évidemment, le premier endroit qui a été identifié, c'est dans la circonscription de Taschereau à Québec. Circonscription de Québec solidaire. C'est un choix qui s'imposait, non pas parce que c'est Québec solidaire, parce que le site est merveilleux, mais dans les autres régions du Québec, moi, je vous invite à surveiller les sites qui auront été sélectionnés. Et pourquoi? Parce que moi, je suis d'avis que pour le Bas-Saint-Laurent, Matane, par exemple, je pense à l'église Saint-Jérôme ou au phare de Matane, pourraient être des endroits considérés.
Alors, à l'église de Rimouski? L'église de Rimouski qui est abandonnée?
La cathédrale?
La cathédrale même, oui, c'est ça?
Oui, mais ça, je laisse ça à mon collègue de Rimouski, le soin de plaider pour ça. J'en ai déjà beaucoup à plaider.
OK.
Mais c'est sûr que ma circonscription va faire une offre. C'est clair, je rencontre la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent demain à Montjoly et je vais lui en parler de ça. Donc, on a un projet pour un espace bleu. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'on a des espaces muséaux qui ont besoin d'argent.
Ben voilà.
Et là, on dirait que les espaces bleus vont passer avant parce que ça fait partie de la trame nationaliste là, que le gouvernement veut imposer d'ici l'élection.
Mais vous ne pouvez pas être contre ça, le nationalisme?
Ben le vrai, oui. Mais ça, c'est juste des symboles. Si on était vraiment nationaliste, là, en matière linguistique, ça paraîtrait. En matière de patrimoine à Montréal, ça paraîtrait aussi. Je veux dire, ça ne m'apparaît pas répondre à des convictions très sincères. Ça répond davantage à du calcul politique. Et ça, je ne suis pas le seul à le remarquer.
Est-ce qu'on ne peut pas faire une pierre deux coups, des fois? Calcul politique et nationalisme. Je pense au Parti québécois, après 76, qui a installé justement des panneaux bleus à l'entrée de tout ce qui était lié à l'État du Québec, que ce soit école ou bureau
de circonscription. Ouais. J'ai plein d'idées, moi, M. Robitaille. J'ai même ressorti des propositions du professeur Patrick Taillon, qui est souvent sur vos ondes.
Oui. Et qui est, un chroniqueur chez nous, ben oui, c'est notre chroniqueur constitutionnel.
Et puis, d'ailleurs, que je connais très bien, parce que je lui ai déjà raconté qu'il a été président du Comité national des jeunes du Parti québécois après moi. 15 février 2003, je me souviens de la date. Et il propose que, sans changer la Constitution, il y a d'autres choses qu'on peut faire, et notamment démonarchiser le Québec.
Oui.
Il propose une étude de l'IRÉ, plein de pistes aussi attrayantes, aussi intéressantes que ce qu'il a fait avec le projet de loi 96. Alors, j'invite le gouvernement du Québec à ne pas s'arrêter à ce bon chemin et à continuer et à écouter ce qu'il a à dire là-dessus aussi. Parce que quand, dans le document du nationalisme de la CAQ, je ne sais pas si on peut l'appeler encore le rapport Samson, on parle du moment opportun pour rompre avec la monarchie. J'aimais l'hypothèse que c'est pas mal maintenant.
Ouais. Hey, dernier sujet, Pascal Bérubé, vous qui avez déjà été leader, si je ne m'abuse. Éric Duhaime, chef du Parti conservateur, va peut-être bientôt avoir une députée, Claire Samson, à l'Assemblée nationale, mettons cet automne, là. J'imagine qu'il va copier le Parti québécois avec son chef non élu. Il pourrait venir faire des points de presse dans le hall du Parlement en compagnie de Claire Samson?
Bien, vous savez, la règle, c'est techniquement, tout parlementaire peut être accompagné de quelqu'un. Ça arrive souvent avec des groupes, par exemple.
Ouais.
Nous le faisons parce que notre chef n'est pas un élu. Alors, les points de presse commencent toujours par une courte intervention d'un député de l'Assemblée nationale.
Oui.
Alors, rien n'empêcherait Claire Samson, si elle le souhaite, et si elle est apparentée au parti de M. Duhaime, de le faire. J'imagine qu'il y aurait des négociations avec la tribune de la presse, parce que ça augmenterait le nombre de points de presse le matin. Il y en a déjà trois. Parfois, le gouvernement en fait un aussi. Alors, je ne fais pas la promotion de cela. Je dis que mon expérience et mon souvenir tendent à démontrer que c'est possible de le faire. Et vous savez quoi? J'ai l'impression que M. Duhaime y a pensé.
Très bien, oui, c'est là-dessus qui compte, je crois. Merci infiniment.
Et tout comme le débat des chefs, d'ailleurs, où il y a un précédent avec M. Legault en 2012, qui avait des députés qui n'étaient pas élus sous la bannière de la CAQ, mais qui siégeaient sous le vocable CAQ. Et ça lui a permis de faire le débat des chefs de 2012.
On dit qu'il fait beaucoup de maraudage, M. Duhaime. Est-ce qu'il vous a rencontré?
Non, pas chez nous. J'ai l'impression qu'il cible d'autres formations politiques. Non, il ne nous a pas approchés. Et puis l'inverse n'existe pas non plus.
Merci, Pascal Bérubé. Au revoir. Bon été en passant.
À vous aussi, aux auditeurs. Au revoir.
Au revoir. Et c'est tout pour La Haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.